things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, on a entendu déjà Naël Fija tousser. Il y a également Sandra Dancourale et Corinne Rondeau. À notre affiche, Vasarely, le partage des formes au centre Pompidou à Paris. Magique Licorne au musée de Cluny. Amar Kanwar, Such a Morning à la galerie Marianne Goodman. Il y aura également un coup de cœur de Naël Fija pour l'exposition d'Anna Eva Bergman à la galerie Jérôme Poggi. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le film La dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli qui est sortie aujourd'hui sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition Vasarely au centre Pompidou, dont les commissaires sont Michel Gauthier et Arnaud Pierre. Exposition qui se présente comme la première grande rétrospective française consacrée à l'artiste. Je n'ai pas fait les recherches qu'il aurait peut-être fallu faire, mais bon, j'étais un peu surpris, mais pourquoi pas. Vasarely né en 1906 en Hongrie, qui s'installe à Paris en 1930, ville où il mourra en 1997 à 90 ans. Il débute comme artiste graphiste dans des agences publicitaires, signe dans les années 30, la série des Zèbres, dont on dit qu'elle invente l'art optique. Ensuite, Vasarely sera partout, de la façade de la station concurrente et néanmoins amie, RTL, au logo de Renault, mais aussi sur les papiers peints, les couvertures de livres, les clips vidéo. Production hors du circuit artistique est un des axes de l'exposition qui propose beaucoup, beaucoup d'œuvres, 300 à peu près, de différentes natures.
La toile du maître mesure 2 mètres 50 centimètres. La toile du maître ne convient peut-être qu'à celui qui l'a faite. Des mains de toutes les couleurs, des fleurs étranges qui changent de visage, qui changent de paysage. On dirait qu'il a voulu représenter le ciel de son lit. On dirait qu'il a laissé tomber des ailes sur le tapis. Puisqu'il a voulu faire le monde à son idée, les yeux fermés, le plus simple est encore de ne rien lui donner, mais de lui pardonner. Oui, de lui pardonner.
Pas pu résister à l'envie de faire entendre cette chanson de Gérard Manset, La toile du maître, dont on voit une sorte de scopitone dans l'exposition Vasarely, puisque il y a notamment une version où on le voit chanter tout jeune et en costume devant des Vasarely, bien sûr. C'est une des entrées possibles, hein, il y en a pas mal. Corinne Rondeau, j'ai eu la chance de parcourir les salles de cette exposition du Centre Pompidou avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on y voit, pour commencer ?
Eh bien, on y voit une exposition qui est en ordre chronologique, on va dire. Donc l'exposition a une dimension pédagogique pour ceux qui ignoreraient ce qu'est Vasarely au-delà de Manset, par exemple.
Du logo de Renault.
Voilà. Ou... d'ailleurs, ça m'avait été parfaitement sorti de la tête. Mais ce qu'on y voit, c'est vraiment une exposition qui a une grande clarté, dont la scénographie a une dimension, je dirais, très cloisonnée en même temps. Elle marche par bipartition. Le début, c'est toute son inscription à travers le petit Bauhaus de Budapest, où il a justement une formation sur le graphisme qui perdra jamais de vue, parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il va quand même développer ce qu'on va appeler de l'op art. parce qu'on voit très très vite dans ces études de matière, par exemple, c'est-à-dire des sortes de vanités, des formes, un échiquier, un mannequin, un dé, un peigne, et puis d'autres choses. Et à côté, il y a la série des zèbres, donc c'est effectivement les zébrures noires et blancs qui forment en fait la silhouette du zèbre ou de deux zèbres.
Le contour n'est pas dessiné, ce sont vraiment les rayures qui
font
la forme.
C'est les rayures qui forment les formes, et donc évidemment, on voit qu'à l'intérieur de ce début d'œuvre, il y a une volonté de faire sortir quelque chose de la surface du plan. Et d'ailleurs, les publicités aussi qu'il fait, alors c'est sortir aussi vers la vie, c'est-à-dire quand on fait une publicité pour les rhumatismes, pour un médicament, on est dans la vie. Donc il a vraiment une inscription très basse. Et je dirais presque aussi, ça me faisait penser à Théo van Doesburg ou Frédéric Kessler, c'est-à-dire un espace de la cité, aller vers une dynamique, sortir vraiment dans l'espace social. Il y a de l'art social tout de suite grâce à cette formation de graphisme. Donc on voit qu'il y a déjà un travail sur le plan qui veut faire bouger, faire sortir, extérioriser absolument les choses. Et puis après, on passe à une deuxième salle qui, là, est plutôt de la peinture abstraite et plus...
Sous influence.
Oui, on va le dire, on va le dire, avec tout ce qu'il y a derrière lui, quoi, puisqu'il va y avoir plus tard aussi des hommages à Malevitch, mais on voit du Joseph Albers quand même qui se passe par là, avec des tons monochromes, donc c'est du plan et ça travaille sur des formes géométriques, des couleurs un peu ternes, on va dire, post-cubistes.
Un peu éteintes, oui.
Ouais. Et puis après, on a une répétition, on va dire, du travail graphique, où on va rentrer dans des salles là où il y a des couvertures de livres, où il y a des couvertures,
des
pochettes de disques, des magazines. Et puis après, et donc peu à peu, on voit bien qu'il y a une spatialisation, un agrandissement. Et d'ailleurs, quand on lit ces notes brutes, ce sont ces notes du moment, on va dire, on voit qu'il a il traite cette idée de combiner et en même temps de passer à une autre échelle. D'ailleurs, il parle de l'agrandissement, agrandir. Et puis, c'est l'homme de tous les matériaux. Ça va aller du plastique à la toile sur bois, la toile sur la peinture sur bois, sur toile. Il y a l'acier, il y a le carton, il y a la tapisserie, il y a la faïence, il y a la mosaïque, il y a la verre. Il y a des montres aussi.
Donc,
il a une dimension vraiment de design pour moi. C'est vraiment l'artiste du design. Et d'ailleurs, dans une partie de ses notes brutes notétistes, esthétique, il dit il y avait une démarche de l'art qui était sentir et faire, et là ça devient concevoir et faire. Donc il a une dimension vraiment presque industrielle de la production, et il a un rapport vraiment à l'œuvre originale qui est assez intéressante en termes de conceptuel, on va dire, même si je dois avouer que Vasarely avant l'expo ça m'intéressait pas, et après l'exposition ça m'intéresse pas plus.
Naël Pigeat, je sais pas quel est votre goût où il était, votre goût avant et qu'est-ce qu'il est maintenant. Mais continuez aussi à dire, à décrire cette exposition pour dire que il y a aussi de la 3D, il y a aussi du volume, hein. Il y a des sculptures, il y a des objets, c'est une chose, mais vraiment des formes sculptées. Il va y avoir toute la dimension architecturale, son inscription dans des grands bâtiments, dans le monde entier. Donc on a découvert que le portail de l'université Paul Valéry de Montpellier, où je suis passé deux fois, qui est à Vasarely, mais il y a aussi ces grandes fresques dans le partie basse de la gare Montparnasse, mais on peut faire le tour du monde et trouver du Vasarely un peu partout. Anaël Pigeat.
Absolument. C'est peut-être d'ailleurs au nom de ça qu'on croit connaître Vasarely. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Vasarely. Alors, l'exposition donne à voir une œuvre beaucoup plus large, me semble-t-il, que ce qu'on croit connaître en général. Effectivement, cette dimension architecturale chez lui est très forte et relève presque même de la croyance, puisqu'il parle de sécularisation de l'art, de la volonté de faire partager l'art au plus grand nombre. Il y a d'ailleurs une anecdote assez amusante qui racontait un moment dans laquelle il s'oppose à sa galeriste Denise René qui propose de vendre des multiples pensant que ça va faire vendre des œuvres de grand format au plus grand nombre, et lui dit mais pas du tout, on vend des multiples pour abolir la notion de propriété. Bon, l'autre croyance qu'il a profondément, c'est l'idée que il y a une issue de l'art vers l'architecture et une intégration architecturale, c'est le terme qu'il utilise, qui passe comme ça, enfin qui peut traduire cette ouverture sur le monde. Alors il y a un certain nombre de projets, en particulier un des premiers qui date de 56, qui est la cité polychrome du bonheur, qu'on voit dans l'exposition, d'ailleurs dans une vitrine, une sorte de vitrine présentoir dessinée par Vasarely lui-même. Il y a aussi dans l'exposition la reconstitution de la salle à manger de la Deutsche Bank, qui est tout à fait spectaculaire et qui est vraiment un... Qu'est-ce que j'ai dit de la Deutsche Bundesbank?
Soyons précis.
Corinne Rondeau, vous avez raison. En tout cas, qui est extrêmement spectaculaire et qui est vraiment un environnement complet. Il y a aussi à l'extérieur de l'exposition les décors faits pour la salle à manger de la Régie Renault, qui sont très émouvants parce que on voit que ce sont des panneaux qui ont vécu, dans lesquels les gens ont peut-être cogné leur plateau. Enfin, les salariés de Renault ont peut-être cogné leur plateau. Donc, il y a vraiment cette dimension architecturale effectivement très forte dans son travail. Ce que me semble montrer l'exposition aussi, c'est un autre aspect de son œuvre que j'ignorais, qui est sa dimension cosmique.
C'est-à-dire
qu'en fait, il y a...
Si je vous interromps là, franchement,
c'est un peu dur quand même. Je pensais que c'était une sorte de teaser pour la suite, mais... cette dimension cosmique, elle est très profonde et elle est là depuis le démarrage, au sens où, en fait, son abstraction est extrêmement liée au réel. C'est-à-dire que dès le début, il y a des œuvres dans les premières salles, des tableaux qui sont très inspirés directement de Galet vu sur la plage de Belle-Île et des tableaux absolument saisissants du village de Gordes dans le Luberon où il parle de la lumière et du contraste entre le jour et l'obscurité qui sont extrêmement évocateurs en fait et qui sont le signe que cette abstraction est une abstraction qui est en fait liée au réel. Et dans la deuxième partie, enfin dans la partie ultérieure disons de son travail, on voit cet élan cosmique, enfin on voit que son abstraction, que la présence des ondes et des particules, que sa fascination pour le monde de l'espace en fait était extrêmement présent jusqu'à la fin de l'exposition dans laquelle on voit une sérigraphie qui a été éditée pour le premier vol habité de l'espace, pour repartir dans le premier vol habité de l'espace.
Alors c'est vrai que c'est aussi le parcours de l'exposition parce qu'on n'a pas dit que les cimaises sont d'abord blanches, puis gris clair, puis gris foncé, on arrive au noir et dans le cosmos des salle assez spectaculaire sur la fin de ce parcours, Sandra Adam-Courallé. Spectaculaire, mais alors très dense, parce qu'il y a ces murs noirs, mais il y a aussi beaucoup de grandes toiles de Vasarely qui sont assez rapprochées les unes des autres, ce qui fait quand même, ce qui donne des effets un peu, parfois, qui font un peu tourner la tête ou qui piquent un peu les yeux.
Tout à fait, en même temps, c'était un des apports de Vasarely, et c'est pour ça qu'on a dit de lui qu'il était le précurseur de l'op art et qu'il s'est ensuite amusé...
De l'art optique.
Et qu'il s'est ensuite amusé dans de nombreuses œuvres cinétiques. C'était la nouvelle place accordée aux visiteurs, aux regardeurs. Il se concentrait pas seulement sur l'idée que le spectateur était... en contemplation devant un tableau, mais qu'il devenait acteur et que sa vision permettait de provoquer dans le tableau, grâce à un jeu de lignes et de combinatoires, vous l'avez dit, très élaboré par Vasarely, permettait de faire apparaître des énergies, des boursouflures. Effectivement, voilà, ça c'est quelque chose qui est très bien montré, je trouve, dans l'exposition. Et on parlait de vision cosmique, donc qui est en fait la dernière salle de l'exposition de l'exposition. En fait, j'ai l'impression que les commissaires, ils veulent insister sur le fait que finalement, la grille proposée par Vasarely, elle ne correspond pas à cette idée de l'artiste moderne, anonyme, avec une certaine neutralité, qu'il y a vraiment cette idée d'une vision nouvelle, d'une énergie à l'œuvre. On sait aussi qu'il a côtoyé certains scientifiques, comme le scientifique Ovalde, qui avait consacré une grande partie de son œuvre à la théorie des couleurs, mais une théorie philosophique et presque religieuse. On appelait ça le monisme entre 1900 et 1950. Il y a quelque chose de presque spirituel dans sa manière de concevoir les formes géométriques et abstraites qu'on pourrait rapprocher de Kafka.
Mais est-ce que ça produit l'effet sur vous, du coup ? Est-ce que vous ressentez cette spiritualité ? Parce que personnellement, je ne la ressens pas du tout, en fait. Moi, donc, j'ai une interrogation que j'ai. C'est un ressenti dont je parle.
Alors, ressentir la spiritualité, c'est une question complexe.
Devant Torel, moi qui suis peu spirituel, je la ressens. Devant Vasarely, pas.
En tout cas, effectivement, il y a une obsession telle dans la forme et quand on ressort de l'exposition, je trouve qu'on le ressent, qu'on se dit qu'il y a effectivement une obsession qui pourrait effectivement être d'un ordre spirituel, pourquoi pas pour Vasarely. Ça me fait penser à des artistes comme Kubka qui se sont attachés comme cela à des formes simples comme le carré, le cercle, de manière tellement obsessionnelle qu'il y a quelque chose de mouvant. En fait, il faut dire que Vasarely aussi, ce qui est amusant, c'est que quand il arrive à Paris, lui, c'est pas du tout intéressé au cubisme, il trouvait ça trop romantique. Ce qui l'intéressait et ce que Paris connaissait mal dans les années 30, c'était toute cette avant-garde qui venait de Malevich et du Bauhaus. Et ça aussi, c'est il y a une forme de spiritualité dans ce sens-là qui émeut dans les œuvres de Vasarely. Une
spiritualité athée, alors je vais peut-être tenter ça. mais je suis pas certain non plus. Corinne Rondeau ?
Non, mais vous avez raison de parler de Teurel, parce qu'on pourrait justement, quand on est dans les dernières œuvres, parce que les deux dernières œuvres...
Teurel fait des installations vraiment très immersives, basées sur très peu de choses, de la lumière, de la couleur, pour
situer. Oui, des couleurs aussi franches qu'il peut y avoir dans les dernières œuvres de Vasarely. Oui. En même temps, effectivement, c'est dans l'espace que ça se passe avec Teurel, alors que là, ça se passe dans un plan, mais ça crée justement des effets d'illusion de profondeur. Les deux dernières salles sont assez belles, parce qu'elles travaillent à la fois sur la lumière, de l'autre côté, sur la saturation de la couleur. Ça, c'est plutôt bien fait. Moi, je regrette vraiment que les commissaires de plus en plus veulent faire vraiment un déroulé assez classique. J'aurais adoré qu'on nous mette vraiment dans une conception de la spatialisation, parce que c'est à la fois présent en termes de démonstration presque de conservation, quoi, hein, de démonstration, alors qu'en fait, je pense que... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le décalage entre les années 60-70 dans lesquelles les gens vivaient ce truc-là, et je pense que la décoration au-dessus de RTL et les clips là qu'on voyait à la télé, ça devait mettre des beignes aux gens quand ils regardaient ça, en se disant « Mais c'est qui ces gens qui prennent de la coke ?» Et en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, on a tellement assimilé ce genre de perception pop que c'est chouette, c'est sympa, c'est dans la surdétermination. Donc c'est à la fois joli et on veut nous faire comprendre l'histoire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de spiritualité du tout, même si je pense qu'il a un idéalisme forcené. Ça, oui. C'est-à-dire vouloir envahir absolument par une grammaire visuelle et un langage visuel. Et là, pour le coup, il est vraiment l'héritier du Bauhaus et de Molinage, par exemple. Il a vraiment cette ambition de créer l'espéranto. Il y a une salle comme ça qui s'appelle comme ça. Et donc, en fait, il y a une volonté d'universalisation. Et en même temps, dans le catalogue, on nous dit, mais en fait, il est aussi pour une sorte d'idiosyncrasie. C'est-à-dire pour une singularité. Et moi, en fait, moi qui suis d'aujourd'hui, j'arrive pas à le percevoir. Alors, les historiens peuvent me le dire, mais je trouve que la perception que j'ai, c'est une saturation, parce qu'en fait, c'est la volonté aussi de Vasarely. C'est-à-dire envahir, et il le dit d'ailleurs, il dit que son défi, c'est écrit dans ses notes brutes, hein, c'est une plasticité mass-média. Donc à partir de ce moment-là, la spiritualité, vous pouvez
mission
pas...
accomplie. Hein.
Et donc, à ce moment-là, vous pouvez, comme vous le disiez, Arnaud, au début, en questionnant Anaëlle, il est partout. Il peut être dans une banque, il peut être dans le privé comme dans le public, il peut être à l'intérieur, à l'extérieur.
Il peut être dans une église et dans une banque.
Il peut être dans une montre, comme il peut être à la télévision, au cinéma. Et si vous voulez, il y a un aspect de surmodernité, c'est-à-dire un excès de signes qui passe par la couleur et cet effet pop. Donc c'est la raison pour laquelle moi je trouve qu'il est, je dirais, l'enfant finalement d'une surmondialisation. Et en même temps, c'est pas ce que défend notamment Pierre Arnaud dans le catalogue, en disant non, pas du tout. Il y a quelque chose chez lui du glocal, c'est-à-dire une globalisation en même temps que de la volonté de réinsérer tout le temps des singularités. Alors moi je suis pas tout à fait convaincue, même si historiquement ça peut tenir sans doute, c'est eux les chercheurs, pas moi.
C'est Arnaud Pierre.
Mais
je vous en prie.
Oui,
Anaëlle Pigeat.
Je trouve que s'il y a une question de spiritualité qui se pose chez Vasarely, elle passe par la couleur. Parce qu'en fait, ce que montre l'exposition, comme vous commencez à le dire, Corinne, ce que montre l'exposition, c'est que c'est un peintre évidemment, mais c'est surtout un extraordinaire coloriste. Et on le voit dans la dernière salle avec un certain nombre d'œuvres qui sont simplement des découpages et des papiers collés, ce qui est assez étonnant. Qu'on voit pas forcément dans toutes les reproductions qu'on a à sa disposition de manière générale dans les livres. Et en fait, cette question de la spiritualité, me semble-t-il, chez lui, se traduit surtout en termes de résonance avec le monde réel. Il y a en particulier un tableau qui s'appelle Ménerbe, qui est un tableau de la première période, qui est donc une sorte de paysage abstrait, dans des teintes de violet et de orange, qui me semblent avoir une vibration extrêmement forte. Et je trouve que si spiritualité il y a, c'est par là que ça passe, par la résonance avec le monde.
Allez, un dernier mot, Sandra Dancourallet.
Oui, je trouve que ce qui est très bien montré dans l'exposition, parce que moi j'y allais aussi un peu avec cette idée du grand maître, d'un motif devenu à la mode dans cette société consommatrice des années 70, c'est l'époque de Pompidou et des grandes commandes publiques. Et là on découvre un Vasarely qui a une vision plus grande, qui est vraiment cet héritier du Bauhaus et qui en même temps, de par peut-être sa formation, a cette idée que constructivisme finalement et productivisme peuvent être paradoxalement peuvent aller de pair. Mmh. Alors c'est très bien montré dans l'exposition. On se demande si c'est pas par le terme de pop, si on le compare pas à Warhol dans son utilisation du média. Et je trouve qu'il y a une réflexion dans le catalogue de l'exposition qui est faite par Gilles Gasparina qui explique bien ce paradoxe. C'est que si Vasarely, en fait, il a réussi son coup, en fait, il y avait un risque contenu dans le projet lui-même. Et c'est un risque de saturation, en fait, de ce motif, qui a sapé peut-être aussi la réception de son œuvre. Donc là, je trouve que c'est faire honneur, cette exposition, à cette volonté d'un art social, d'un art total. Et en même temps, on se rend compte que son œuvre a été largement diffusée parce qu'elle elle correspondait finalement en même temps à cette époque, à peut-être des impératifs d'aménagement territoriaux, d'une société techno-industrielle.
Ouais, enfin, il y aurait beaucoup à dire à partir de cette dernière remarque de Sandra Dancourallet, mais je pense qu'il a fait un bon entrisme aussi dans ces années-là, et je pense que c'est lui qui a imposé plus de choses enfin, il a su profiter d'un moment, peut-être.
Aussi.
Pour résumer votre aussi, pensée mal.
Mais son multiple est un multiple industrialisé, quoi.
Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur Vasarely, mais le temps file.
En même temps.
Pardon. En même temps. Oui. En même temps. Vous avez jusqu'au 6 mai. Pour aller au Centre Pompidou, pour voir Vasarely, le partage des formes, c'est le titre de l'exposition. Un catalogue, bien sûr, est édité par le Centre Pompidou. Et puis, si vous êtes plutôt plus au sud de ce pays, la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence, qui est quand même, pour moi, un lieu que j'aime beaucoup, qui a ouvert ses portes il y a maintenant quelques temps, après de longues années un peu en déshérence. C'est vraiment un endroit conçu par et pour Vasarely, qui est aussi une très très belle façon de découvrir son œuvre. Mais il y a beaucoup de choses à suivre dans la dispute, vous le savez. Des licornes, un marquage noir et Anna Eva Bergman.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique avec, finalement c'est comme Vasarely, des licornes. Les licornes sont partout. Vasarely aussi. Il y a une thématique dans cette émission. Là, on va au musée de Cluny, au musée national du Moyen-Âge. On se doute bien que les six tapisseries de la Dame à la licorne sont au cœur de cette exposition, que c'est à partir d'elle et autour d'elle que se construit la présentation. Mais pour rappel, alors, si son ou ses auteurs sont inconnus, on sait que cet ensemble de tapisseries a été réalisé entre la fin du 15e et le début du 16e siècle. 5 des tapisseries représentent chacune un des sens. On va peut-être déjà débattre là-dessus, mais on imagine que la sixième, avec sa devise « Mon seul désir », pourrait représenter le sixième sens, mais il pourrait s'agir simplement du sens du cœur. Bref, Béatrice de Chancel Bardelot est la commissaire de cette exposition qui montre toutes sortes de licornes du 15e siècle à nos jours.
Quand Dieu fit l'univers, il y eut sur la terre des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui. Mais la plus jolie dans ce vert paradis, la plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne. Il y avait des gros crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des beaux moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Mais jamais personne ne verra la mignonne, la jolie licorne.
Bon, après Gérard Manset, c'est pas tout à fait la même chanson française avec les compagnons de la chanson. Mais bon, ils ont accompagné des générations comme les licornes, de plus en plus présentes. Anaëlle Pigès, que vous avez eu des petites licornes vous-même?
Pas énormément, pour dire la vérité.
Ah, ça veut dire oui, donc. Pas énormément.
J'en ai pas souvenir très précis.
Vous n'avez pas de passion
précis.
Licorne.
Non, j'ai pas de passion de licorne.
Bon,
non, j'ai pas de passion de licorne.
C'est quand même très répandu. Hein.
Pour la dame à la, par contre, oui.
Alors, la dame à la. C'est quoi cette exposition magique licorne?
C'est une curieuse exposition parce que c'est une exposition qui a lieu alors qu'une partie du musée de Cluny est fermée pour travaux, que la réouverture va avoir lieu en 2020.
Il faut bien patienter.
Et qu'il faut bien patienter. Et qu'entre-temps, la tapisserie de la dame à la licorne a été réinstallée, comme c'est le cas régulièrement. On a le souvenir à une époque d'une installation dans une salle ronde, enfin en tout cas ovale, qui était mauvaise pour la tapisserie. Elle est passée ensuite à une salle plutôt rectangulaire et là on est dans un espace à peu près carré. Et en fait l'exposition Magique Licorne est organisée autour de la tapisserie. C'est un peu ambigu parce que j'y suis arrivée pensant découvrir une exposition sur les licornes. Si on la prend comme telle, je la trouve un petit peu maigre, c'est-à-dire qu'elle se déroule en trois mouvements. Une première partie historique dans laquelle on a un ensemble d'objets anciens qui déploient une iconographie liée à la licorne. Alors on nous explique un peu la généalogie de la licorne, du mythe. Marco Polo a prétendu en avoir vu une. Alors à sa suite, beaucoup d'autres gens ont dit aussi qu'ils en avaient vu. On pense que la corne de la licorne, c'est la dent du narval, qui est un animal qu'on trouve dans les mers du Nord. Évidemment, les cabinets de curiosité sont pleins de dents de narval au Moyen-Âge et à la Renaissance. Enfin, surtout à la Renaissance. On voit un certain nombre de bréviaires, de coffrets, de graduels, de Saint-Trictus, de Marchienne, on a un exemplaire de Songe de Polyphile dans laquelle on voit toutes sortes de licornes comme ça qui apparaissent et l'histoire se déroule jusqu'au moment où on arrive dans l'espace de la tapisserie et puis il y a une dernière partie moderne et contemporaine dans laquelle on a le 20e et le 21e siècle. La fin du 19e, exactement, le 20e et le 21e siècle. Tout ça est tout à fait intéressant, toujours avec l'iconographie de la licorne, mais extrêmement compacté. Et pour le dire la vérité, j'ai trouvé un petit peu frustrant, parce que pour la partie récente, je vais parler de la tapisserie après, on a par exemple la présence de dessins de Gustave Moreau, qui sont des dessins préparatoires pour son grand tableau La Licorne. Enfin, c'est assez peu. Il y a une sérigraphie de Le Corbusier, il y a des costumes de Cocteau pour le ballet de La Licorne, et puis quelques œuvres contemporaine, une tapisserie, une magnifique tapisserie de Claude Ruteau aussi. Ça, il faut le dire, qui est vraiment un ensemble absolument somptueux, qui s'appelle Oublier mémoire de la dame à la licorne, dans lequel on voit des apparitions, des formes comme ça, des cinq tapisseries fait par Claude Ruteau. Et puis, mais ses œuvres sont très serrées. Ça se termine par une petite vidéo de Maïder Fortuné qui est montrée vraiment dans un petit coin. Et donc, je trouve ça un peu frustrant. Alors que, pourtant, il y a une recherche considérable qui apparaît dans le catalogue et que j'aurais adoré que cette exposition soit un franc hommage et une franche exposition sur la tapisserie et que les conservateurs nous racontent ces recherches formidables avec, par exemple, les textes de Rilke pour nous prendre par la main.
Je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas, Naël Pigeon, vous allez me faire des signes désespérés, ne désespérez pas. Mais on va d'abord écouter Sandra Dancourallet et son rapport à ces magiques licornes.
Oui, alors cette première partie est intéressante. On nous dit qu'on va pas se concentrer, on va se concentrer seulement sur la vision occidentale. On ne va pas aller dans la licorne en Chine, par exemple, qui est un animal prophylactique, enfin protecteur. On va nous expliquer la naissance finalement de l'imagerie de cette licorne à partir d'abord des bestiaires exotiques qui ont été développés au Moyen-Âge pour arriver à cette histoire d'une licorne qui est réputée avoir des pouvoirs magiques à la Renaissance, qui est cette licorne qui est donc illustrée dans la fameuse Dame à la licorne qui est au cœur de l'exposition. Cette licorne donc qui ne pourrait être attrapée que grâce à la présence d'une jeune femme vierge, et c'est pourquoi elle est symbole de chasteté et d'innocence. Effectivement, c'est une exposition, moi qui m'a un peu déçue, dans le sens où je m'attendais à une exposition sur la licorne, et effectivement c'est plutôt une mise à l'honneur d'un des chefs-d'œuvre du musée de Cluny, qui est à savoir la Dame à la licorne. La Dame à la licorne, elle mérite toute notre attention. Hein. C'est un décor très mystérieux et complexe, qui a eu de nombreuses interprétations. On trouve d'ailleurs à la fin de l'exposition des tas de catalogues et d'explications, notamment celle de Michel Pastoureau et d'Elisabeth Taburet de La Haye, qui rentrent dans les détails et qui nous expliquent à la fois que cela pourrait être les cinq sens, plus un sixième qui serait peut-être le cœur, en tout cas le lieu du désir, le siège des passions, mais aussi le siège de la morale et du libre arbitre. On rapproche aussi ce sixième sens, peut-être d'une sixième vertu, parce que dans le roman de La Rose, à la Renaissance, il est question de six vertus qui sont en fait les six vertus de l'amour courtois. On a une époque vers 1500 où c'est la naissance d'un amour moderne, où finalement le désir féminin est pensé comme capable de charmer, enfin il est pensé en position de d'acteur, vraiment. Et bref, ce chef-d'œuvre, il a fait couler beaucoup d'encre, puisque je le disais, c'est peut-être une manière plus moderne de concevoir l'amour. Elle a fasciné parce que la licorne, évidemment, est un symbole parfaitement érotique. C'est peut-être ce que Jean Cocteau y voyait, je crois. La deuxième partie de l'exposition, vraiment, n'est pas à la hauteur, justement, de toute cette fascination qu'a suscité... qu'ont suscité toutes ces hypothèses. En tout cas, c'est absolument pas expliqué, ni pour Jean Cocteau, ni pour Gustave Moreau. Et je trouve, rapidement traité le fait d'ajouter une œuvre de Nicolas Buff. En plus, cette tapisserie, alors donc Nicolas Buff, un artiste contemporain qui a réalisé une tapisserie d'une peau de licorne qui serait comme une peau de bête au sol. Alors c'est très formel, très iconographique, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt pour moi du travail de Nicolas Buff, c'est quand il est mis dans tout son univers. On se rappelle peut-être à la Nuit Blanche en 2016 qu'il avait fait tout un jeu vidéo autour justement du personnage de Polyphile. Voilà, enfin les œuvres sont un peu sorties de leur contexte. Maïder Fortuné, c'est pareil, je pense que elle traite plutôt de la fin du mythe enfantin.
Donc un curieux choix qui vous déçoit. Est-ce que vous avez vu des licornes, vous, Corinne Rondeau?
Fascinante.
Dans la vie?
Évidemment, tous les jours.
J'étais sûre que vous voyiez des licornes, voilà. Moi aussi.
Non, alors écoutez, je pense que la frustration est une bonne chose, dans la mesure où ça nous met dans le mystère de la licorne, puisqu'en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la vidéo de Maïder Fortuné, parce que je trouve qu'elle a exactement le développement iconographique qu'on retrouve dans les manuscrits ou dans les recueils de chants qu'on a dans la première partie. C'est-à-dire, on passe du blanc au noir. Et la licorne, c'est à la fois l'animal craint, c'est l'animal sauvage qui concurrence la gueule du lion, hein, puisqu'on va retrouver dans la teinture de la dame, dans les tapisseries de la dame à la licorne. Mais c'est aussi, dès le 15e siècle, le 16e siècle, 1500, la pureté. Et donc, pour attraper une licorne, il fallait mettre une vierge dans la forêt. Et c'est à l'odeur de la vierge que la licorne s'endormait et qu'on pouvait tuer la licorne. Et la licorne, elle est aussi associée à la vierge, donc à la pureté, mais aussi au Christ, qui a été tué, puisque c'est un animal qui relève de tout ce qui est de la chasse, et pas que de ces tapisseries dont on voit bien la dimension idéaliste, c'est-à-dire elle est à la fois dans un paradis, elle est dans une zone, c'est un locus, elle se tient dans un jardin, fleurs et à la fois fruits. Et puis il y a cette héraldique de cette famille de laviste lyonnaise qui aurait fait donc
le commanditaire.
Les commanditaires. Et donc ce qui est à la fois de formidable dans cette première partie qu'on a avec toute cette iconographie religieuse, avec entre les pays rhénans dont on apprend que la licorne est aussi un emblème de l'annonciation, c'est-à-dire et puis que la licorne elle peut être aussi à côté d'une femme sauvage toute velue. Mais en fait, c'est une femme qui va devoir rester dans la solitude, et c'est une femme de la séduction. Alors évidemment, pour nous, c'est un peu compliqué de voir cette séduction avec cette femme qui est toute poilue avec cet agneau. C'est parce qu'elle le touche, elle touche son pelage, etc. Et, ou alors, effectivement, ces chants du dimanche des rameaux, qui est le jour où le Christ rentre dans Jérusalem. Et on voit bien qu'il y a une volonté de nous faire traverser. Et quand on... une traversée d'une nature de la licorne à une autre nature de la licorne, mais qui tient une iconographie, chrétienne. Et les mystères qu'il y a dans les tapisseries de la dame à la licorne, au-delà des sens, c'est vraiment... Moi, quand je les ai vus, je suis restée sur le poète, et je les ai regardés pendant longtemps, parce que moi, ça m'a fait penser à deux choses dans la représentation chrétienne de la Vierge au manteau, vous savez, qui a été très critiquée par les protestants, puisqu'elle l'ouvre le manteau, la Vierge, il y a là des fidèles sous elle. Ou alors la Madone del Parto, qui est la grossesse de la Vierge, qui n'est pas énormément représentée. Mais on voit bien qu'à l'intérieur de cet amour courtois qui se produit, puisque la licorne, c'est l'amour mystique, c'est l'amour courtois, c'est l'amour sauvage. C'est parce qu'on est dans le règne de la chasse aussi, et pas que dans le règne de... Et le « à mon seul désir », c'est gravé sur les bagues au Moyen-Âge, c'est gravé sur des anneaux, c'est l'idée du désir. C'est-à-dire le point exact où finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais la tapisserie aurait été faite pour une fille, pour des fiançailles, à mon seul désir. C'est-à-dire pour le neveu de, comment s'appelle-t-il, Jean IV, le Antoine II, qui se serait marié avec Jacqueline Raguier en 1500. Et donc, cette dernière tapisserie est un signe d'union. Et à l'intérieur de tout ça, vous avez les autres sens. Enfin, moi, j'ai trouvé l'expo à la fois le peu qu'il y a en termes de manuscrits et d'objets, comme vous disiez. Il est suffisant à comprendre qu'il y a quelque chose d'une histoire chrétienne qui se joue à l'intérieur, de quelque chose de totalement énigmatique, mais qui rejoue, évidemment. Parce que l'annonciation, c'est quand même la reproduction. C'est le mystère aussi, non pas que de la sexualité, mais aussi la féminité, comme vous l'avez dit. Et il y a ces passages de la féminité qui relèvent quasiment la schizophrénie. C'est absolument génial. Alors, évidemment, après, c'est un peu faible sur la partie contemporaine. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de rester et à regarder, d'être le voyageur, comme Marco Polo, pour découvrir, non pas un rhinocéros, mais les femmes.
Très rapidement, Annale Pigeat.
Je disais pas l'inverse en disant que le cœur de l'exposition, c'est la tapisserie et que c'est ça tout l'intérêt de l'exposition. Je voulais préciser que le film de Maïdar Fortuné, je le trouve formidable. Je trouve juste qu'il est pas assez mis en valeur, pas assez bien montré. Et l'autre chose, c'est que toute l'histoire de la redécouverte de la tapisserie au 19e siècle par Georges Sand et par Mérimée est curieusement absente de l'exposition, alors que c'est quand même une destinée assez extraordinaire, la légende du prince turc qu'il aurait créé. Et que finalement, il s'agit de regarder cette infinité d'animaux, de fleurs et de nature qu'il y a dans la tenture.
Dernier mot, Sandra, d'encore aller.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La première partie, je l'ai trouvée très enrichissante et ça nous explique bien cette intérêt, en tout cas, de la licorne vers 1500, et ça nous amène de manière très nourrissante à la Dame à la licorne. C'est juste cette deuxième partie de l'exposition. Sincèrement, je suis, vous le savez, une férue d'art contemporain, mais là, ça n'a pas lieu d'être.
C'est un musée de Moyen-Âge.
Musée national du Moyen-Âge.
Oui, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas s'être concentré soit nous avoir expliqué que c'était des œuvres directement inspirées de la Dame à la licorne, déjà on comprendrait mieux. On s'en doute, mais c'est pas clair. Ou s'être concentré sur... sur certains aspects de ce développement contemporain. Mais là, je trouve que c'est un peu vite.
Oui, bon, il ne faut pas en vouloir au musée qui n'a pas tout ouvert.
On a la chance de voir cet ensemble des tapisseries de la Dame à la licorne. Il y a effectivement de la contextualisation avant, il y a quelques projections, on va dire comme ça, ensuite. Il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 25 février seulement qu'on peut voir cette exposition au musée de Cluny. Et un coup de cœur, celui d'Annaëlle Pigeat pour une exposition en galerie, la galerie Jérôme Poggi, une exposition d'Anna Eva Bergman, qui que quoi dans où ?
Un franc coup de cœur pour cet artiste qui fait là Jérôme Poggi fait là sa deuxième exposition, que l'on connaît comme une peintre du Nord abstraite, née en 1909 d'un père norvégien, d'une mère norvégienne et d'un père suédois. On connaît ses astres, ses lunes, c'est sa technique qu'elle a inventée en pratiquant la feuille de métal argentée sur des fonds blancs ou sur des fonds bleu marine, absolument d'une beauté saisissante. On sait qu'elle est l'épouse...
Chaque fois, je vous interromps, on connaît ou pas, on s'adresse à des gens qui peut-être ne connaissent pas Anna Eva Bergman, je vous le rappelle à chaque fois.
Quand on connaît Anna Eva Bergman, elle apparaît souvent sous les traits de l'épouse d'Artung, qu'elle a été, d'autant plus qu'ils se sont mariés, qu'ils ont divorcé et qu'ils se sont remariés. Elle est vraiment une artiste à part entière, d'une force très singulière. On la connaît comme peintre du Nord. Elle a aussi vécu en Espagne et elle a aussi été profondément marquée par les paysages du Sud et de Minorque en particulier. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette exposition aussi et qui éclaire son travail d'une manière tout à fait singulière. C'est une série de dessins qui sont issus d'un livre de cuisine qui date des années 30. Dans lesquelles elle est plus proche de la caricature ou du dessin d'illustration que de l'abstraction assez grave et très cosmique, là aussi, qui constitue l'essentiel de son travail, il faut le dire, mais qui montre une femme extrêmement, enfin, qui montre une extrême humanité dans son travail, qui montre beaucoup d'humour, puisque si on regarde les recettes, honnêtement, je pense qu'on se sent pas très bien après, parce que c'est tellement gras et tellement que, voilà. Mais ça montre enfin, ces ensembles d'œuvres ensemble montrent la profondeur de ce travail et montrent là aussi une abstraction qui est toujours lié au réel et qui est toujours lié à une dimension cosmique extrêmement spirituelle.
Cette exposition, on peut la voir jusqu'à quand, Anaëlle Pigeat? Je vous pose une colle?
Oui, vous me posez une colle.
Eh bien, comme j'ai oublié de le noter, je comptais sur vous. Hein. Bon, on va trouver ça d'ici la fin de cette émission, bien sûr. L'exposition d'Anna Eva Bergman, c'est en ce moment à Paris, à la galerie Jérôme Bospoggi. Alors, Alexandre Faugeron me parle tellement vite dans l'oreille. Le 9 mars, dans mon casque, merci Alexandre, qui non seulement réalise l'émission, mais fait fact-checking.
Et voilà. Ça se passe rue Beaubourg.
La dispute. France Culture.
Dernière exposition à notre affiche ce soir à Marcanoir avec Such a Morning, exposition à la galerie Marianne Goodman jusqu'au 7 mars. Encore une fois une galerie, encore une fois conseillée à nos éditrices et auditeurs de pousser les portes des galeries. Pas hésiter en tout cas à Paris comme en région et dans le monde entier, entrée gratuite. Pour découvrir les œuvres présentées, en l'occurrence c'est la deuxième fois que la galerie Marianne Goodman présente à Paris une exposition d'un Marcanoir. Il est né à New Delhi en 1964 où il vit toujours. Il a été récompensé en 2017 du prix Prins Claus, prix du Pays-Bas, mais si j'en parle, c'est que les attendus du prix résument son travail, je vais en citer un petit peu du coup. Il a été récompensé pour son œuvre profondément dérangeante, belle et émouvante, dans laquelle l'art dialogue avec la documentation et l'activisme, pour son enquête critique et contemplative de la nature de l'oppression et de la résistance courageuse des peuples, pour donner la parole aux victimes de l'injustice sociale, sonder en profondeur les causes et les effets multiples des problèmes et apporter un témoignage de notre temps. Pour le prix, on citait encore son utilisation novatrice de formes d'art hybride au service d'une méthode de narration sans égale. Je vous passe quelques détails, mais je trouvais que c'était effectivement assez précis pour décrire et avant d'entendre un extrait sonore de la vidéo centrale de cette présentation. La vidéo s'intitule « Such a Morning ». Petit extrait sonore de ce film Such a Morning, le dernier film en date d'un Marcanoir, au cœur de la présentation à la galerie Marianne Goodman. Alors, si on n'a pas été à la Documenta 14 à Athènes et à Cassel en 2017, où cette exposition a été montrée, on peut la voir ici à la galerie Marianne Goodman à Paris, 79 rue du Temple, avec une série d'installations qui accompagnent cette présentation. Such a Morning, Sandra Adam Couralé.
Oui, c'est une exposition donc qui se concentre sur cette réalisation d'un long métrage par Amar Kanwar en 2017. Ce long métrage donc qui dure 85 minutes et qu'on peut voir au sous-sol de la galerie Goodman. Et au rez-de-chaussée, on a une série d'installations qui sont de petites rétro-projections de films ou de lumières sur du papier et qui sont en fait des œuvres qui sont issues du film. Mais pour cela, il faut parler du film. En fait, Such a Morning, c'est une histoire, j'allais dire silencieuse, pas silencieuse parce qu'il y a de la musique, il y a beaucoup de musique, mais une histoire sans parole, littéralement sans parole, puisque les mots, en général, chez American Noir, d'ailleurs, souvent, apparaissent seulement de manière écrite sur l'écran. Ici, c'est l'histoire fictive d'un mathématicien qui aurait décidé de s'isoler du monde et qui a décidé de vivre dans le wagon d'un train abandonné, dans une demi-obscurité. Et c'est dans ce train qu'il réalise une sorte de voyage sensoriel que nous vivons avec lui véritablement pendant ces 85 minutes grâce au montage de l'artiste. Et pendant ces visions, lui apparaissent qu'il y aurait 49 obscurités, 49 comment dire, type d'obscurité, merci Corinne, qu'il va condenser dans ce qu'il appelle un almanach des ténèbres. Et ces 49 obscurités, finalement, plutôt qu'un almanach, il va décider de les partager via des lettres au président de son université, à ses collègues, à ses amis. Et finalement, ces lettres, elles n'apparaissent qu'à la fin du film, et ce sont ces lettres en fait qui sont projetées, rétro-éclairées dans les installations au rez-de-chaussée de la galerie. Le contenu de ces lettres, ce sont des lettres, je dirais, métaphysiques, qui ne parlent que d'évanescence en fait, qui finalement s'attachent à toujours définir la substance non définitive des choses. À ses collègues, par exemple, il dit: la seule chose qui est finalement sûre et permanente, c'est que rien ne l'est.
Voilà, une belle façon de passer la parole à Corinne Rondeau.
Ah oui, non, moi je trouve que le film est absolument fantastique. Je trouve qu'il est pour moi, c'est pas simplement un film qui est, ouais, c'est des lettres mais pas de messages, c'est des corps mais pas de paroles, c'est des ténèbres mais pas sans vision. Et ce film-là, évidemment, il nous sert à voir ce qu'il y a à l'étage, comme vous venez de le dire, mais c'est surtout quelqu'un qui se met en retrait pour ne pas dire qu'il a une vie monastique. C'est comment le retrait, l'obscurité qui va jusqu'aux ténèbres est un temps d'ouvrir l'horizon. Ces lettres qui viennent à la fin sont une manière d'ouvrir un certain nombre de réponses à l'intérieur de questions que les autres peuvent se poser. Puisqu'en fait, il y a toute une partie des cartels qu'on voit à travers le film où les gens se posent des questions. Pourquoi il est parti? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est un problème professionnel? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et les explications ne servent à rien. Et à l'intérieur de ça, on a tout le temps une image. Moi, je me rappelle cette image formidable d'un fil d'araignée qui flotte au vent, et on se dit que ce type qui se met en retrait dans une obscurité est celui qui va rencontrer des traits de lumière dans cette ténèbre qu'il se construit, c'est celui par qui la ligne ne va pas s'arrêter sur une explication, parce que l'explication, ça ne sert à rien. Mais par contre, vouloir rompre avec un monde d'explications, un monde de violence justifiée ou alors injustifiable, mais dont on va produire de l'explication, voilà quelqu'un qui se met en retrait pour produire, et là c'est merveilleux formellement, puisqu'en fait il va y avoir une ouverture sur le toit du wagon, et moi ça m'a fait penser à D.H. Lawrence, vous savez, le poète du chaos, le poète, celui qui vient fendre l'ombrelle sous laquelle tous les hommes se tiennent, ils regardent ce simulacre au-dessus d'eux. Et bien le poète, c'est celui qui vient trouer ça et qui va ouvrir justement autre chose avant qu'il vienne le recoudre encore une fois par des explications et autre chose. Et là, ce type qui sort sur son wagon, qui va lire au grand air, dans le souffle, au bruit des oiseaux, c'est quelqu'un qui passe de l'obscurité du monde actuel, de la violence, à cet horizon et qui est aussi celle de l'écriture. Parce que ce film se partage entre cet homme qui se retire et cet homme qui nous donne d'autres images qui sont l'écriture de quoi? De la violence du monde, où on va voir cette femme qui est à l'intérieur avec un fusil. On ne sait pas ce qu'elle attend, mais par contre, on va voir que toute sa maison va être détruite. Elle va être seule au milieu de rien. Et on peut dire que le livre qu'il écrit, on ne le lit pas, mais on voit, par par contre peut-être sa fin, cette femme qui part de son fauteuil. Et au-dessus, après, effectivement, il va y avoir des reprises avec ces... Et moi, je trouve que c'est merveilleux de travailler sur la lumière, que ce soit avec des petits vidéoprojecteurs où apparaît l'écriture. L'écriture, c'est du noir sur du blanc, et en même temps, l'opacité, il la rend transparente. Donc, vous avez deux fois un écran avec inscription de texte, puis deux, une partition de texte, puis image, puis après, vous avez qui correspondent à sept lettres, notamment des lettres qui ne sont pas dans le film. Donc, je suis moins convaincue par la dernière partie où il y a 45 vidéoprojections plus 5 vidéos rétroprojections vidéo, où là, je trouve qu'il y a un peu plus trop, il y a un peu trop d'expérimentation, même s'il y a des choses, il y a quelques-unes qui sont absolument splendides. Vraiment.
Ouais, il y a déjà
mais
beaucoup,
c'est d'une
hein.
beauté,
on l'entend.
Mais folle, folle, folle.
Anna El Pija.
C'est effectivement très, très beau et c'est très surprenant parce que c'est très différent du travail antérieur d'Amar Kanwar, qui était plus proche du documentaire d'une certaine manière, même si évidemment il ne s'agit pas d'un réalisateur de documentaire du tout, mais en tout cas qui était davantage lié à des formes de réalité. Là, on est vraiment dans l'univers du conte, dans l'univers de la parabole. Effectivement, cette dernière image dans laquelle on le voit sortir sur son toit est absolument saisissante de beauté. Elle apparaît d'ailleurs dans une des petites installations avec la lumière rétroprojetée sur ces feuilles de papier tissu artisanal. Il y a un moment juste avant cette scène-là qui m'a beaucoup touchée aussi, qui est le moment dans lequel il fait monter par un système de cordes probablement sa chaise de l'intérieur du wagon à l'extérieur du toit. Et la chaise se balance comme ça et c'est un moment qui est assez plein d'humour et en fait des moments d'humour il y en a aussi dans ce film qui est extrêmement contemplatif, extrêmement méditatif et c'est assez réjouissant d'avoir ces ruptures de ton de temps en temps. Le personnage de la femme est effectivement extrêmement fort aussi comme une sorte de figure de résistance puisqu'elle est armée d'un fusil dont elle ne se sert pas, qu'elle est envahie par ces jeunes hommes qui vont détruire sa maison et elle va se retrouver seule sur sa chaise dans son fauteuil à plat. Amar Kanwar raconte qu'il imaginait peut-être à un moment que ce soit elle qui raconte l'histoire du mathématicien dans le film. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un film qui souligne le fait que nous n'avons pas de réponse à aucune question. Pour ce qui concerne ces petites installations, je les ai trouvées aussi un peu nombreuses dans la dernière partie et parfois un peu appuyées et qui faisant bizarrement ressortir le texte d'une manière un peu appuyée. Voilà.
Sandra, d'encore aller.
Oui, en fait, on dit que c'est très beau, que c'est très contemplatif, ce en quoi je suis d'accord, mais c'est pas seulement un portrait onirique, c'est véritablement un portrait de résistance que nous livre l'artiste. Et cette résistance, d'ailleurs, souvent dans son œuvre, elle est contenue dans le corps des personnages qui sont mis en scène, mis en scène ou remis en scène. Je pense à cet autre film qu'il avait réalisé en 2007 qui s'appelait The Lightning Testimonies, donc sur des témoignages de femmes qui ont été abusées sexuellement ou par un système ici encore de narration multiple, cette fois-ci c'était grâce à 8 écrans, on s'attachait vraiment au corps qui devenait central en tant que à la fois lieu de l'humiliation mais aussi lieu de la protestation. Et ici encore, je crois que le personnage par exemple de cette femme qui ne bouge pas dans son fauteuil, le fusil à la main alors que l'on détruit sa maison autour d'elle, ou de cet homme qui a décidé de contraindre son corps à demeurer dans un train pour ne pas voir la lumière du jour, je crois que ce sont des formes de résistance et c'est d'ailleurs les images résistent aussi dans ces films et cette manière, de multiplier les trames narratives prouve cela dans un des écrans dans Lightning Testimonies. On voyait des mots qui interrogeaient quelle image peut représenter au mieux les contenus changeants d'un témoignage. Et ben voilà, c'est ça. C'est une question très importante pour cet artiste engagé, à savoir qu'elle trouvait la forme la peut-être la plus ouverte, la moins définitive pour un contenu toujours complexe.
On doit s'arrêter là-dessus. Corinne Rondeau, un dernier mot.
Non, mais je veux dire, la résistance, c'est quand quelqu'un est capable de mettre de la lumière dans l'obscurité.
Hein,
enfin, je veux dire, voir la fleur, parce qu'il y a des fleurs, et voir la fleur en pleine lumière du chaos, ça, c'est un acte de poésie. Et donc, forcément, un acte de poésie, c'est de la résistance. Mais il ne le fait pas avec ces formes de dénonciation permanente qu'on a dans l'art qui nous saoule. Donc je dirais que là se révèle à nous, je dirais, ce film qui est comment, voilà, on révèle de la vision à travers le chaos. C'est ça qui est beau.
À Marc, à Noir, l'exposition s'intitule comme le film Such a Morning. C'est jusqu'au 7 mars à la galerie Marianne Goodman, 79 rue du Temple à Paris, je vous rappelle. Les entrées sont gratuites dans les galeries pour aller découvrir ce film notamment. Avant de conclure cette émission, Sarah Dion nous a rejoint comme chaque soir pour la séquence du jeu de la dispute qui va. Sarah Dion nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question d'hier était quelle était la précédente fonction de l'actuel théâtre de la Commune et c'était une salle des fêtes.
Gagner ce soir des invitations pour le film La dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli. Sorti ce jour sur les écrans français, quelle est la question ?
D'un roman de quelle écrivaine La dernière folie de Claire Darling est-il adapté ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Laurent Nunez. À notre sommaire, Frantumalia, l'écriture et ma vie d'Elena Ferrante, Hélène ou le soulèvement d'Hugues Jalon, la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert, et puis un coup de cœur de Grégoire Leménager pour Comme à la guerre de Julien Blanc-Gras.
France Culture, l'esprit d'ouverture.